France Culture, il est midi et demi. C'est un peu tôt pour l'apéro. En revanche, c'est l'heure des infos avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous commencerons tout d'abord avec ce nombre de 20 000 morts depuis le début de l'année ou quand le conflit en Afghanistan, qui connaît ces dernières semaines un net regain de violence, est en passe de devenir le plus meurtrier au monde cette année devant celui en Syrie. Les précisions dans ce journal avec Mariam El-Kurdi.
Un mois, jour pour jour, après la chute du pont, la ville de Gênes panse encore ses plaies.
Et la catastrophe a fait 43 morts, des dizaines de blessés. Ce matin, pour leur rendre un dernier hommage, la ville tout entière a été invitée à respecter une minute de silence. Reportage à suivre de Mathilde Imbert.
Également dans votre édition, Thomas, en France, après le plan pauvreté hier, le plan vélo aujourd'hui.
Oui, le gouvernement doit détailler cet après-midi un plan comprenant pour la première fois un financement dédié donc à la bicyclette, avec notamment un forfait mobilité pour les salariés, nous expliquera Véronique Robérotte.
Et pendant ce temps, la bataille se poursuit pour la présidence du groupe LREM.
Ils sont 10 candidats postulés pour prendre la place laissée par Richard Ferrand sans qu'aucun profil ne fasse véritablement consensus. Et puis la bataille à gauche également, la délégation de députés France Insoumise qui devait assister au discours du secrétaire national du PC Pierre Laurent demain lors de la fête de l'UMA a décidé d'annuler sa venue. Un boycott sur fond de débat autour de l'immigration, nous dira Sophie Delpont. Enfin, comme chaque vendredi, la page Europe
avec absolument. un invité
aujourd'hui, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires étrangères. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et oui, et nous de notre côté, nous allons nous pencher sur le financement public et privé des partis politiques avec Julia Caget, économiste qui publie Le Prix de la démocratie. On est à un an d'une échéance électorale, donc il est peut-être temps de se poser cette question.
Merci, à tout à l'heure. Parce que rapporter quasi quotidiennement la litanie des conflits ne suffit pas toujours à rendre compte de l'horreur de chaque situation. Parfois, les nombres, mieux que les mots, agissent comme des révélateurs pour véritablement mesurer la barbarie de la guerre. Cette année, le conflit afghan est en voie de dépasser les 20 000 morts, civils compris. Ce qui en ferait non seulement l'année la plus sanglante dans le pays, mais aussi le conflit le plus meurtrier au monde. À titre de comparaison, 15 000 personnes sont décédées depuis le début de l'année en Syrie. Alors comment en est-on arrivé là? Mariam El-Kurdi, bonjour.
Bonjour.
Il semblerait en particulier que l'organisation État islamique, en accélérant le rythme de ses attaques, malgré d'ailleurs des effectifs réduits, contribue grandement à cette déstabilisation de l'Afghanistan.
Oui, l'émergence des branches afghanes et pakistanaises de Daesh dans la région ont entraîné un regain de violence. L'organisation État islamique revendique régulièrement des attaques meurtrières visant des lieux très fréquentés, des centres-villes, et faisant donc un maximum de victimes parmi les civils. Les attaques sont d'une plus grande ampleur, elles sont plus fréquentes, plus sanglantes. L'attentat le plus meurtrier dans la capitale depuis la chute des talibans en 2001, c'est celui du quartier diplomatique de Kaboul en mai 2017. Bilan 150 morts et 400 blessés.
Et puis Daesh, Mariam, n'est évidemment pas le seul responsable de ce regain de violence en Afghanistan.
Oui, l'autre raison, c'est que chacun campe sur ses positions. L'administration Trump veut, je cite, « combattre pour gagner et à renforcer la présence de ses troupes ». Pas moins de 14 000 soldats américains sur place. Les États-Unis ont aussi intensifié leurs frappes aériennes, mais si l'expansion des talibans est ralentie, elle n'en est pas moins importante. Bien au contraire, depuis l'invasion américaine en 2001, le conflit ne fait qu'empirer. Les talibans sont mieux organisés et bénéficient du soutien de combattants qui affluent de l'extérieur. Ils contrôlent une plus large partie du territoire que lors de la disparition de leur régime dans les années 2000. Ces derniers mois, ils sont entrés à Ghazni, capitale provinciale stratégique du sud de Kaboul, ou encore dans la province de Farah, à l'ouest du pays. La menace talibane couvrirait 70% du territoire afghan. Des provinces comme Helmand ou Kandahar, où des centaines de troupes occidentales ont été tuées, sont également sous contrôle des talibans.
Merci Mariam El-Kurdi. Comme une bande-annonce angoissante, là encore, d'un film catastrophe, Mangkhut est aujourd'hui présenté comme le plus violent typhon attendu aux Philippines depuis le début de l'année, avec des pluies diluviennes, des rafales pouvant aller jusqu'à 255 km à l'heure. 4 millions de personnes se trouvent actuellement sur la trajectoire directe de ce typhon. Alors quand ils n'ont pas les moyens de fuir leur logement, les habitants barricadent leurs fenêtres et renforcent leurs toits avec le pauvre espoir qu'ils ne soient arrachés par la tempête. Selon le porte-parole de la défense civile locale, la houle pourrait être équivalente à un bâtiment de 4 étages. Aux États-Unis, cette fois-ci, les fortes pluies poussées par un vent violent ont déjà commencé à s'abattre dès hier soir, comme un avant-goût du déchaînement avec lequel l'ouragan Florence devrait fondre aujourd'hui sur le littoral atlantique. Bien que rétrogradé, le cyclone tropical n'en reste pas moins dangereux. Et en particulier, il menace de déverser des pluies diluviennes et de provoquer des inondations catastrophique. Quoi de mieux pour se parler qu'un bureau de liaison, nouveau signe du rapprochement entre les deux voisins coréens, un bâtiment de 4 étages comprenant des bureaux séparés pour le nord et le sud, mais aussi une salle de conférence commune a été inaugurée ce matin. Ce canal de consultation et de communication, selon les termes officiels, sera ouvert 24 heures sur 24. Toute l'année, une vingtaine de représentants de chaque pays y travailleront afin de faciliter les échanges, améliorer les relations et apaiser les tensions. C'était il y a un mois, jour pour jour, la ville de Gênes vivait l'une des plus grandes tragédies de son histoire avec la chute meurtrière du pont Morandi. La catastrophe a fait 43 morts et des dizaines de blessés. C'est pour leur rendre hommage que la ville tout entière a donc été invitée ce matin à respecter une minute de silence. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore établies. Une enquête a été ouverte visant notamment la société concessionnaire de l'autoroute. Et en attendant, la ville panse encore ses plaies, apprend à vivre sans ce viaduc qui la traversait et assurait la liaison avec le reste de l'Europe. Conséquence directe, les routes sont aujourd'hui littéralement engorgées et les entreprises qui travaillent pour le premier port italien font face à un casse-tête extrêmement coûteux. C'est un reportage à Gênes de Mathilde Imberti.
Tout en chargeant et déchargeant leurs containers, comme ils le font depuis 40 ans, Paolo et Riccardo, routiers, se remémorent leur 14 août. Une partie de leur paysage qui soudain s'est effacée.
Je le traversais 10 à 12 fois par jour, ce pont. Je suis un miraculé. Ce matin-là, mon patron m'a demandé de faire un détour pour récupérer un autre conteneur. Mais sinon, j'aurais été dessus.
Sur l'unique route reliant désormais l'ouest et l'est de Gênes, les poids lourds roulent à touche-touche avec les voitures. Entre 10 et 20 000 véhicules empruntaient le pont Morandi chaque jour.
À cette heure-ci, je n'ai jamais vu des bouchons pareils. C'est du jamais vu.
Du port de Gênes et son bureau climatisé, Sandro De Caro mesure lui l'impact de l'écroulement du pont. Il est propriétaire d'une vingtaine de camions dans le port.
Les coûts augmentent pour toutes les entreprises qui travaillent autour de Gênes. Toutes. Si pour aller à Milan, ça prend 2 heures de plus, 3 autres heures pour aller ailleurs, moi je ne peux pas faire travailler mes chauffeurs 24 heures de suite. Je vais devoir embaucher du personnel. Si on perd du temps, on perd de l'argent. C'est tout simple.
Et tous espèrent un nouveau pont au plus vite d'ici fin 2019, a promis la région.
Voilà, reportage à Gênes, signé Mathilde Imberti. Cela fait 4 mois maintenant, collègue Sentsov. Le cinéaste ukrainien détenu en Russie a entamé une grève de la faim, c'était le 14 mai dernier, opposé à l'annexion de la Crimée par Moscou. Il a été condamné au terme d'un procès qualifié de farce par les organisations internationales et malgré les appels de la communauté internationale, Vladimir Poutine reste, lui, inflexible. Alors depuis ce matin, la société des réalisateurs a décidé de lancer une nouvelle forme de mobilisation, un jeune tournant face à l'ambassade de Russie à Paris jusqu'à la libération espérée d'Oleg Sentsov. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, est venu ce matin initier le mouvement. C'est un reportage de Marie-Pierre Véran.
Le mouvement s'improvise presque dans le petit square attenant à l'ambassade de Russie. On attend encore la tente qui accueillera les jeûneurs. La mobilisation a dû s'accélérer ces dernières heures en raison de nouvelles inquiétantes venues de Russie. Le philosophe Michel Etchaninov, auteur des Nouveaux Dissidents.
Son avocat lui a rendu visite il y a quelques jours et Oleg notamment a écrit une lettre à sa sœur en disant qu'il était en train de faire son testament, qu'il n'y croyait plus, il ne peut plus se lever pratiquement. Maintenant il souffre d'hypoxie, c'est-à-dire que ses organes ne sont plus suffisamment oxygéné. Son cœur, ses reins, son estomac peuvent lâcher à tout moment, même si le reste du corps continue de fonctionner. Il peut mourir à court terme.
Après tant de tribunes appelant à un sursaut des consciences, les mots viennent à manquer. Place aux actes, Christiane Taubira.
C'est une chaîne illimitée que nous lançons. Au-delà de tout ce que nous avons fait, des pétitions, des tribunes, des mobilisations, des cartes postales envoyées à l'Élysée, des demandes d'audience, des remises de pétitions, un élargissement des mobilisations, c'est-à-dire un appel au nom de personnalités internationales réputées. Au-delà de tout cela, nous accomplissons un acte symbolique pour dire que notre mobilisation demeure, que notre inquiétude s'accroît, 124 jours de grève de la faim, c'est inédit. Donc nous appelons les autorités françaises sont elles qui sont fondées à parler aux autorités russes. Nous les appelons à faire un geste qui soit enfin efficace.
Cette grève de la faim prend modèle sur le mouvement qui aux États-Unis avait conduit Barack Obama à fermer Guantanamo. Pour l'heure, toute tentative politique ou intellectuelle s'est heurtée à l'inflexibilité du maître du Kremlin.
Voilà, et je profite de votre présence, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour nous donner cette information au sujet d'Oleg Sentsov.
Oui, je comprends que le Parlement européen réfléchit à la possibilité de donner le prix Sakharov à Oleg Sentsov, mais je réagis aussi à ce que disait Christiane Taubira il y a quelques minutes. Le président Macron a parlé à plusieurs reprises du cas d'Oleg Sentsov avec Vladimir Poutine, sans résultat malheureusement jusqu'à présent.
Merci Nathalie Loiseau, on vous retrouve à la fin de ce journal.
Midi 40 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Si l'arrivée aux affaires d'Emmanuel Macron était censée marquer l'avènement d'un nouveau monde, ou à tout le moins l'achèvement de la destruction de l'ancien, c'est sans doute dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que la prophétie du chef de l'État semble s'être le mieux réalisée aujourd'hui, avec non seulement de nouveaux visages, mais aussi l'arrivée de politiciens non professionnels. Sauf que cette nouvelle législature est à présent travaillée par ses contradictions, en l'occurrence la difficulté aujourd'hui pour le groupe LREM à trouver un chef qui fasse autorité. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour succéder à Richard Ferrand à la tête du groupe LREM, 10 députés ont d'ores et déjà fait acte de candidature, pour l'essentiel des hommes et des femmes de la société civile. D'où cette question, cet épisode ne témoigne-t-il pas au fond des limites de la Macronie politique, du moins à l'Assemblée?
D'une faille peut-être liée à la nature même de ce parti et à son histoire. La République En Marche, c'est tout frais. Un peu plus de 2 ans d'existence, construit grâce à un électrochoc politique, la conquête de l'Elysée par Emmanuel Macron, l'éclatement des partis traditionnels, la volonté de renouvellement politique, vous l'avez dit, un mouvement constitué d'un exécutif expérimenté, de macronistes et de prises chez les Républicains et le Parti Socialiste, peu nombreux, rigoureusement sélectionnés. Pour le reste, beaucoup de nouveaux militants, une configuration parfaite pour une machine de campagne qui s'impose aux élections, on l'a vu, mais pas forcément pour une majorité parlementaire comme l'a imaginé Emmanuel Macron. Une formation avec 312 députés doit être gérée par un président de groupe qui a de la bouteille, qui sait maintenir une ligne avec discipline, une façon générale de brigade, ce qu'a fait Richard Ferrand. Mais là où les autres partis de gouvernement ont toujours pu s'appuyer sur des pères fondateurs ou des grands barons locaux et régionaux pour prendre cette responsabilité, Emmanuel Macron, lui, a déjà posé toutes ses cartes au gouvernement et au perchoir. Que reste-t-il donc? Laetitia Avia, Gilles Legendre, Bruno Bonnel, Jean-Charles Colarroy, Perrine Goulet et Roland Lescure, issus de la société civile, Brigitte Bourguignon, Gabriel Attal et Rémi Robérot, des anciens socialistes, sans véritable éclat politique ni médiatique à ce jour. Pareil pour Amélie de Montchalin, récupérée chez les Républicains. En clair, aucun, a priori, n'a le profil. Alors certes, parmi ces noms peut se révéler un vrai chef incontestable, mais si ce n'est pas le cas, la machine parlementaire du macronisme risque de s'enrayer peut-être sur les futurs dossiers sensibles comme celui des retraites. Bref, une première fissure peut-être dans un nouveau monde jusqu'ici tout lisse.
Merci Adrien Toffolet. Alors la révolution Macron, appelons-la ainsi, a conduit à s'appuyer, on vient de le voir, sur un pseudo-amateurisme parlementaire, mais aussi la fabrication d'un espace au centre, espace autrefois incarné par un certain François Bayrou. Or, le président du Modem a visiblement bien l'intention aujourd'hui de se rappeler au bon souvenir du chef de l'État, pas moins de 2 entretiens accordés à la presse ce matin, Le Figaro et Les Échos. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
François Bayrou n'est pas particulièrement tendre avec Emmanuel Macron, auquel il adresse une série de mises en garde, mais aussi des critiques.
Oui, en fait, il est tendre et dur à la fois. Un peu comme un père qui sermonnerait son fils pour lui dire qu'il ne s'est pas tout à fait bien comporté, mais qu'il lui conserverait toute son affection. En tout cas, il sort du silence, effectivement, François Bayrou, ce matin, pour dire ses doutes et pour émettre des mises en garde en direction d'Emmanuel Macron. Déjà, il dresse un diagnostic sur ce qui a dysfonctionné ces dernières semaines. En premier lieu, l'affaire Benalla. Un jeune homme de 26 ans, explique-t-il au Figaro ce matin, a cru pouvoir se passer des règles et des usages, et les glissières de sécurité du pouvoir n'ont pas fonctionné. Et il ajoute qu'il n'approuve pas les critiques adressées au Sénat, faisant la référence à ce qu'a dit Benalla, qui a traité le président de la commission d'enquête sénatoriale de petit marquis, mais aussi faisant référence au coup de fil passé par Emmanuel Macron à Gérard Larcher, président du Sénat, pour l'appeler à un rééquilibrage. Il faut respecter les institutions, dit Bayrou, reprenant à son compte ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur le fait qu'il faudrait peut-être faire preuve d'un peu plus d'humilité. Autre critique concernant la tentation hégémonique de l'exécutif et d'Emmanuel Macron en particulier, ce serait une stupidité et une très grande naïveté, prévient Bayrou. Au contraire, il faut élargir sa base, il faut trouver des partenaires. Il reprend là la critique émise en début de semaine par le député Modem Jean-Louis Bourlange, qui a estimé que le groupe Modem n'est pas considéré comme un partenaire. Si Macron a la tentation de se replier sur ses très proches pour la suite du quinquennat, semble dire François Bayrou, il fait une erreur. Et il plaide pour retrouver l'élan du projet initial porté par Emmanuel Macron, car la promesse de l'élection présidentielle, promesse de faire de la politique autrement, promesse de réduire les fractures de la société française, cette promesse a paru s'éloigner ces derniers mois, dit-il. Dans l'interview qu'il accorde au journal Les Échos, il va plus loin. Il faut que Macron fasse aboutir son aspiration sociale, implore-t-il, et surtout qu'il reste un homme libre, hors du moule, qui résiste au lobby et à la technostructure qui l'entoure. Parce que selon Bayrou, Macron est le président de la République le plus doué depuis Mitterrand. Et surtout, il est la seule chance, dit-il, pour que le modèle politique français ne dérive pas vers un pays définitivement fracturé. Ce que je veux, c'est que ça marche, conclut-il dans l'interview au journal Les Échos. Mais s'il continue sa politique comme les 18 derniers mois, met-il en garde, Emmanuel Macron risque d'être complètement phagocyté.
Merci Stéphane Robert. Parce que le gouvernement ne s'intéresse pas qu'aux seuls marcheurs, il entend aujourd'hui s'adresser aux cyclistes. À l'heure où le vélo reste bien souvent le parent pauvre de la politique des transports, le gouvernement dévoilera en effet aujourd'hui à Angers son plan vélo, accompagné d'un fonds de quelque 350 millions d'euros sur 7 ans, soit 50 millions par an, là où les associations demandaient 200 millions par an. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors parmi les 25 mesures qui seront détaillées cet après-midi, on retiendra notamment celle-ci, très attendue, la création d'une indemnité prise en charge par l'entreprise pour inciter donc les Français à aller au travail à bicyclette.
Il faut dire qu'on part de loin en la matière. En France, moins de 2% des trajets domicile-travail se font à vélo. Et parmi ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, 58% habitent à moins d'un kilomètre de leur lieu de travail. Ils mettraient 5 petites minutes en vélo. Alors comment les inciter à passer aux deux roues non polluants, bon à la fois pour la santé et le climat? Eh bien, le plan vélo prévoit la création d'un forfait mobilité durable, abandonné définitivement. En tout cas, l'indemnité kilométrique facultative jugée trop compliquée par Matignon. Ce forfait vélo sera pris en charge par l'employeur sur le modèle de l'indemnité transport en commun, hauteur de 200 euros par an dans le secteur public pour l'ensemble des agents de l'État à partir de 2020. Ce forfait pourra aller jusqu'à 400 euros dans le secteur privé, mais reste facultatif pour les entreprises privées. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui détaillera donc tout à l'heure à Angers ce plan vélo, ne souhaitait pas, a-t-il dit, être dans une logique d'obligation. La mesure était très attendue par les associations d'usagers des vélos. Elle regrette ce forfait facultatif dans le privé et appelle donc les instances patronales, le MEDEF, à prendre sa part dans la transition écologique en rendant eh bien la prime vélo obligatoire, accessible à tous dans les entreprises. Une bonne prime incitative serait autour de 35 euros par mois, estiment les ONG.
Merci Véronique Robérotte. Débat et concert, la fête de l'humanité qui commence aujourd'hui pour 3 jours au parc de la Courneuve s'annonce comme un temps fort pour le Parti communiste avant son congrès en novembre. Et ce, même si l'ambiance n'est d'ores et déjà pas à la fête entre anciens camarades, la délégation de députés France Insoumise qui devait assister au discours demain du secrétaire national du PC, Pierre Laurent, a décidé d'annuler sa venue, un boycott sur fond de débat autour de l'immigration. Les précisions de Sophie Delpan.
C'est l'étincelle qui a de nouveau enflammé les relations entre communistes et insoumis. Yann Brossat, le chef de file du PCF pour les élections européennes, fustige encore ce matin la position de la France insoumise sur l'immigration, une position qu'il qualifie de nébuleuse.
Avec certains qui assument un discours prenant l'accueil pour les réfugiés, et d'autres qui, au contraire, tiennent un discours qui, de mon point de vue, pose problème. Je pense qu'on est dans une période où l'extrême droite progresse partout en Europe, où le discours raciste et xénophobe est banalisé. Et je pense que dans un moment comme celui-là, la gauche doit être très claire sur cette question des réfugiés. Lorsque l'un de leurs candidats aux élections européennes participe au lancement d'un mouvement de gauche dit anti-migrant en Allemagne, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. Et ça n'est pas insultant ou polémique de le dire. C'est simplement observer qu'il y a un glissement qui, de mon point de vue, est dangereux.
Le ton n'est pas exactement le même que lors d'échanges acerbes sur Twitter où Yann Brossat écrivait En 1939, mon grand-père juif a fui la Pologne pour échapper à l'antisémitisme. Heureusement pour lui, il est tombé sur des gens qui lui ont ouvert la porte et non sur des doctes qui auraient disserté sur les sept plaies d'Égypte avant de lui tendre la main. Une insulte, selon les députés insoumis, qui rappellent que Jean-Luc Mélenchon a désavoué son désormais ex-porte-parole, Georgi Kuzmanovic, qui déclarait que, je cite, « la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires ». Il n'y a pas de contradiction, Jean-Luc Mélenchon a été très clair, répète Éric Coquerel, il est pour l'accueil inconditionnel des réfugiés en détresse.
Et à 12h50 sur France Culture, comme chaque vendredi à présent, c'est l'heure de notre page Europe avec, comme invité aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de vous entendre d'ores et déjà, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes en charge, notamment pour la France, des négociations du Brexit. Vous rentrez justement de Londres. Alors, avance-t-on sur ce Brexit ?
On avance beaucoup sur l'accord de retrait. Plus de 80% du texte de l'accord est déjà rédigé et agréé à la fois par les Britanniques et par les Européens. Évidemment, les 20% qui restent sont les 20% les plus difficiles, en particulier sur que faire pour que, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, il y ait une frontière qui ne soit pas une frontière. Ça a l'air un peu du Magritte, ce que je décris. C'est du surréalisme, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir le respect des accords de paix d'Irlande du Nord, et Dieu sait si c'est important, et la capacité à protéger aussi le marché intérieur européen. Là-dessus, on n'avance pas encore suffisamment, mais Michel Barnier travaille en continu avec les Britanniques. On espère que ça va aboutir.
Alors, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est fixée pour le 29 mars. On devrait quand même arriver à un accord d'ici les 18-19 octobre. C'était au moins la limite de temps. Peut-être qu'on poussera un petit peu jusqu'au mois de novembre. Je vois votre regard qu'a priori on s'annonce un petit peu plus tard sur un accord. Donc Michel Barnier, le négociateur, lui, dit bon, 7-8 semaines, on devrait y arriver. Un optimisme que vous ne partagez pas vraiment, quand même.
Disons que on a perdu pas mal de temps, que maintenant on est près de la date limite fixée, puisque ce qu'il faut, c'est avant le 29 mars que cet accord de séparation puisse être ratifié par le Parlement britannique. Et là-dessus, la question, c'est quelle majorité au Parlement britannique pour quel type d'accord, et par le Parlement européen. Donc il faut effectivement, si ce n'est pas octobre, ça doit être novembre, mais pas plus tard. Ces derniers sujets, il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord dessus. En décembre, Theresa May nous avait dit qu'elle était d'accord sur les propositions qu'on lui faisait. Elle est revenue en arrière depuis. J'espère qu'on va avancer.
Alors vous, justement, vous avancez et vous présentez, vous avez l'intention de présenter au Parlement un projet de loi visant donc à préparer un Brexit sans accord.
Alors, visant à se prémunir au cas où on n'y arriverait pas, l'essentiel de nos efforts, c'est faire en sorte que ça marche. Mais notre responsabilité de dirigeant, c'est d'être capable, si le 30 mars au matin, il n'y a pas eu d'accord, de ne pas tomber des nues et de ne pas dire aux entreprises et aux citoyens européens « Ah, on n'était pas prêts ». Donc effectivement, j'ai présenté au Parlement une demande d'habilitation par ordonnance à prendre toutes les mesures nécessaires au cas où il n'y aurait pas d'accord.
Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez dit une petite phrase hier à Londres qui a fait beaucoup de bruit dans les médias britanniques. Vous avez dit « Une des conséquences, par exemple, si on n'a pas trouvé d'accord le 30 mars, eh bien, les Eurostars ne circuleront plus entre Paris et Londres ».
Alors ça dit tout sur la presse britannique et sur l'état de quasi
crise. Vous voulez leur faire peur ou c'est réel ?
Ben non, ils ont eu envie de se faire peur, puis ils ont envie de faire un gros titre aussi. Le Brexit, on ne parle que de ça, et tous les jours, si on lit la presse britannique, on s'y perd. Ce que j'ai dit, c'est que d'abord, on voulait un accord, et qu'il fallait véritablement tout faire pour ça, qu'on ne pouvait pas dire la proposition britannique ou le chaos, que de toutes les manières, on allait essayer d'éviter le chaos. Soit un bon accord, soit s'il n'y a pas d'accord, se préparer, chacun, dans tous les États membres.
Mais la liste des conséquences possibles doit être sans fin.
Sans fin, non.
Mais beaucoup.
Mais c'est pour ça que la Commission européenne s'y prépare pour tout ce qui relève de ses compétences communautaires. Et chacun des États de l'Union européenne s'y prépare aussi. Les Allemands, les Irlandais, tous. Le but, c'est évidemment que les Eurostars roulent, que les avions décollent.
La presse britannique a fait du sensationnalisme, mais notre travail, c'est d'être prêt à tous les scénarios.
Alors, vous dites quand même que finalement, c'est, pour Theresa May, c'est quasiment une mission impossible. Et vous dites aussi qu'il est impossible d'avoir une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.
Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. La situation dans laquelle le Royaume-Uni aurait le partenariat de sécurité et de défense le plus étroit avec l'Union européenne et le meilleur accès au marché unique, on sait ce que c'est la situation actuelle, c'est d'être État membre. À partir du moment où les Britanniques sortent, notre relation sera dégradée.
Mais eux, ils veulent un statut mieux qu'à Norvège encore.
Alors, la proposition qu'ils ont faite, c'était un petit peu les droits de la Norvège avec les obligations du Canada. Nous, on leur dit, écoutez, vous choisissez le niveau de votre relation, puis on équilibre les droits et les obligations. À partir de là, on peut bien travailler. J'espère qu'on va y arriver.
Alors, quand vous dites qu'il ne peut pas y avoir vraiment d'accord gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il va y avoir un perdant.
Non, ça veut dire que la relation sera moins étroite qu'avant, ce que nous regrettons, mais c'est une décision souveraine du peuple britannique. Nous la respectons et nous devons faire en sorte de limiter la dégradation de notre relation.
Mais alors, le calendrier de ce Brexit par rapport aux élections européennes, l'enjeu est énorme.
Oh, c'est pas par rapport aux élections européennes ou pas par rapport aux élections européennes. La réalité, c'est que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Soit on se met d'accord sur toutes les conditions du départ, et il y a à ce moment-là une période de transition qui permet de décélérer un peu la relation jusqu'à fin 2020, soit ça s'arrête net. Oui, ça va se passer en même temps que les élections européennes. C'est pas forcément ça qui sera au cœur des élections européennes. Les débats qu'on a en Europe aujourd'hui, et heureusement, concernent davantage la réforme de l'Union européenne, les défis auxquels on est confrontés et les réponses qu'il faut y apporter. Moi, je suis plutôt soulagée de voir que les Européens arrivent à faire deux choses en même temps, négocier sur le Brexit et réformer l'Union européenne.
Et on terminera sur ce soulagement. Donc, merci Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grelier. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui avec de belles éclaircies sur de nombreuses régions. France, soleil sur le sud-est. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.